Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast du blog 10 et performants. Je suis Marielle Certain et aujourd'hui je voulais vous parler des 7 clés pour accompagner votre enfant dans sa scolarité. Alors, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de parents qui sont démunis face aux difficultés de leurs enfants dans leur scolarité. Les exigences scolaires et les moyens utilisés pour évaluer les compétences sont souvent décalés ou peu adaptés pour nos enfants qui ont des troubles d'apprentissage. En tant que parent, il est aussi souvent difficile d'accompagner nos enfants dans leur scolarité car leurs moyens d'apprentissage sont quelquefois éloignés des méthodes que nous-mêmes nous avons apprises. Donc ce n'est pas toujours évident. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de bien comprendre les conséquences fonctionnelles des troubles d'apprentissage de nos enfants. Si on parle de la dyslexie, par exemple, le trouble de la lecture n'est pas la seule difficulté à laquelle l'enfant doit faire face. La retranscription à l'écrit de sa pensée est aussi, si ce n'est plus, à mon avis, compliquée à gérer. Dans le domaine scolaire, l'accès à l'écrit est primordial aujourd'hui. Et le modèle d'évaluation des compétences est à ce jour centré sur l'écrit, sur ce mode. Or, on sait bien que les enfants dyslexiques, mais aussi les dyspraxiques ou ceux atteints de troubles déficitaires de l'attention, sont souvent en difficulté dans le passage à l'écrit. C'est qu'un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais tout ça pour expliquer que la première clé pour accompagner au mieux nos enfants et vos enfants est de comprendre l'incidence directe de leurs troubles sur leur capacité scolaire. La deuxième clé est ce que j'appellerais l'accompagnement productif. Il faut bien entendre, et effectivement tous les parents le savent, c'est qu'après qu'une journée d'école, souvent nos enfants sont épuisés, ils sont à bout. Alors pour certains, la fatigue va s'exprimer avec une lassitude importante, pour d'autres ça va être de l'énervement, ça va dépendre des enfants. Mais pour être productif en fin de journée, l'enfant va avoir besoin d'un sas de décompression en sortant de l'école. Donc pensez bien, en sortant de l'école, à leur permettre de décharger tout ce volume d'énergie qu'ils ont encore en eux. Ils ont passé 8 heures sur une chaise à essayer de se contenir. Pour les enfants qui ont un TDA, c'est un véritable défi que d'arriver à rester en classe, assis sur une chaise, sans trop bouger, en écoutant le cours, en essayant d'écrire et de prendre les cours à l'écrit. Tout ça, c'est vraiment un gros défi dont on ne se rend pas compte, en fait. Donc, laissez bien un temps de transition entre le temps d'école et le temps de devoir, qui est déjà un temps qui est assez compliqué pour les enfants avec un trouble d'apprentissage. En toute honnêteté, je pense qu'il vaut mieux lâcher une demi-heure ou un quart d'heure plutôt qu'aller se bagarrer une heure parce que ça ne sert strictement à rien. La troisième clé est de cadrer quand même le temps de devoir parce que, avec un minuteur. Parce que par exemple, les enfants ont besoin qu'on leur matérialise le temps de travail pour que l'enfant puisse se rendre compte en fait du temps passé. Quand on leur dit on va travailler pendant un quart d'heure, 20 minutes, les mots ne veulent des fois pour eux rien dire. Alors que quand on le matérialise, soit avec un minuteur tout simple de la maison, hein, de la cuisine, ou alors avec une application sur le téléphone, ou alors avec une application avec un time timer, hein, cette application existe sur le téléphone, le temps est matérialisé par un cadre en rouge. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, le cadran diminue. Et donc, effectivement, l'enfant peut matérialiser le temps. Ça permet peut-être, effectivement, de faire les devoirs en plusieurs temps. Un petit quart d'heure de travail, je relâche 5 minutes. Un quart d'heure de travail, je relâche 5 minutes. Et souvent, c'est un peu plus bien vécu, autant, à mon avis, par les parents que par les enfants. Parce que les fins de journée pour les parents sont aussi compliquées. Et quand on voit que les enfants rentrent avec des tonnes de devoirs, alors sur le primaire, peut-être pas, mais sur les temps de collège, quand même, on se rend compte que le volume de devoirs est assez important, même si, quand même, au niveau de la loi, les devoirs apparemment ne sont pas obligatoires, ce n'est pas passé partout, mais voilà, nos enfants qui sont au collège sont des enfants qui sont quand même chargés en termes de devoirs. Donc la journée étant longue, il est important quand même de leur laisser un petit peu de temps et de peut-être morceler ce temps de devoirs et le répartir sur différents moments pour que ça passe plus facilement. La quatrième clé serait, entre guillemets, d'accepter que en fin de journée, quand il s'agit de faire les devoirs, on a droit de compenser les difficultés de notre enfant. Quand on a un enfant qui est dysgraphique ou qui est dyspraxique ou dyslexique avec une dysgraphie, qu'il a écrit toute la journée, écrire les devoirs, écrire l'exercice qu'il y a à faire, c'est encore une contrainte de plus. Donc en toute honnêteté, moi en tant que parent et même en tant qu'ergothérapeute, je le dis, le soir si vos enfants ont de l'écrit à faire, eh bien, faites l'écrit, vous, sous la dictée de votre enfant. Je ne dis pas qu'il faut faire les devoirs à leur place, pas du tout, parce que ça n'a aucun intérêt, ni pour eux, ni pour vous. Si on fait les devoirs à la place des enfants, la seule chose qu'on leur montre, c'est « tu n'es pas capable d'eux », alors que ce n'est pas ça. Ce qu'on peut faire par rapport à leurs difficultés, c'est leur dire « tu me dictes ta réponse et je l'écris sous la dictée ». Et dans la marge du cahier de brouillon ou du texte à remplir, vous marquez écrit sous la dictée de mon enfant. Tout enseignant peut comprendre qu'après 8 heures de cours, un enfant qui a un trouble d'apprentissage et commence un peu à fatiguer pour ce qui est de l'écriture. Ce que l'on veut, en écrivant à sa place, sous sa dictée, c'est que l'accès au sens et à la connaissance soit là. C'est ce qu'on veut en premier. Ce n'est pas le moyen qu'on utilise, le stylo, ça ne reste que le moyen. Ce que l'on veut vérifier, c'est est-ce que mon enfant a compris le sens de l'exercice, est-ce qu'il a compris la connaissance qu'on a voulu lui inculquer, et pas est-ce qu'il est capable d'écrire encore pendant 20 minutes. Ce n'est pas ça. D'accord ? La cinquième clé, alors qui pour moi est importante, mais qui peut paraître un peu difficile à avaler, c'est qu'il va falloir, à mon avis, se détacher des notes. Je comprends bien que dans le cadre scolaire, que ce soit en primaire, en secondaire, et encore que maintenant on a les compétences, donc certaines écoles ont fait le choix de ne plus mettre de notes, mais majoritairement, les notes sont le moyen d'évaluation pour les professeurs, pour évaluer les compétences et les connaissances de vos enfants. Souvent, les enfants 10 ne récoltent pas les fruits de leur travail. Moi, combien de fois mon fils et ma fille sont rentrés d'évaluation en me disant « j'ai tout réussi, super, j'ai tout compris ». Et puis quand la note est tombée, elle n'avait aucun rapport par rapport à l'enthousiasme du départ. Souvent, mes enfants me disent « je pense que j'aurai moins 13-14 » et des fois, c'est des notes en dessous de la moyenne. C'est assez compliqué pour nous, parents, et de voir nos enfants travailler et de ne pas avoir la récompense, entre guillemets, espérée de leur travail qui serait une bonne note. Il ne faut pas oublier que la note ne reflète pas que la connaissance de nos enfants, mais ça reflète surtout la non-adéquation des moyens qui sont mis en place pour les évaluer. Quand on a un trouble de l'écriture et qu'on a une dyslexie, par exemple, l'enfant peut totalement avoir compris l'exercice, mais dans la retranscription à l'écrit, il a eu du mal à retranscrire sa pensée. Et donc, le professeur va lui noter ce qu'il a à l'écrit. Et donc, il va penser que ce qui a été écrit dans la feuille correspond vraiment à ce que l'enfant a voulu dire. Et des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, l'enfant a du mal à retranscrire, et pas des fois, et à mon avis, beaucoup de fois, a du mal à retranscrire cette pensée. Et donc, il est même arrivé des fois que des enfants écrivent l'inverse de ce qu'ils voulaient dire. Si l'enfant avait été évalué à l'oral, on n'aurait pas eu ce souci. Et l'enseignant pourrait se rendre compte, effectivement, que la compétence et la connaissance est là. Mais que, par contre, le moyen qui est l'écrit est un moyen qui n'est pas adapté. On n'a jamais pensé à demander à un enfant qui a des lunettes, qui a une myopie, aujourd'hui c'est évaluation, tu enlèves tes lunettes et tu fais ta copie. Ça n'arrive jamais. On ne demande pas à un enfant qui a un handicap moteur d'aller faire du sport comme un enfant qui n'a pas d'handicap moteur. Ça n'arrive jamais. Donc, j'aurais tendance à dire, il faut vraiment que les moyens sont des moyens adaptés, sont à mettre en place pour les enfants 10, pour que les enseignants puissent vraiment les évaluer pour leurs compétences et pas pour leurs troubles. Par contre, il est demandé ou exigé de nos enfants d'être évalués avec des outils donc qui ne seront pas adaptés. C'est pour ça que la sixième clé, et pour moi, une des clés primordiales, c'est l'accès à la connaissance par les parents aux outils dont leurs enfants ont besoin. La connaissance, c'est la fondation d'un accompagnement serein de nos enfants. Si vous avez la connaissance des outils dont il a besoin, vous pourrez vous rendre compte de la compétence de vos enfants et de la connaissance de vos enfants. En deuxième temps, on est bien d'accord qu'il va falloir peut-être un peu plus former les enseignants à ces outils aussi, parce qu'il y en a tellement qu'il est compliqué de savoir lequel choisir, et les enseignants ne vont pas se former à tous les outils qui existent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un panel d'outils qui est commun à tous les troubles 10, et qui pourrait être intégré dans des formations continues pour les enseignants. Ce n'est pas très compliqué, ça peut être mis en place. La dernière clé, pour moi, est de transmettre aux enfants le savoir. Il faut quand même qu'on leur explique leurs différences, pas comme une faiblesse, parce que ça n'est pas une, pas comme un handicap, mais vraiment comme une force. Avoir un trouble d'apprentissage, ce n'est pas de tout repos, autant pour les enfants que pour les parents, ça on est bien d'accord. Mais le plus délétère, à mon avis, ça serait de laisser dans l'ignorance les enfants de leurs points forts et de leurs points faibles. L'idée, ce n'est pas de mettre en lumière leurs points faibles, puisqu'on n'en a pas besoin, mais c'est de leur apprendre à mieux les appréhender pour mieux les comprendre. Cette compréhension de leurs points faibles vont permettre de comprendre les outils dont ils vont avoir besoin. Et donc, donner à tous ces enfants les moyens et les outils de leur indépendance est, à mon avis, la clé de leur autonomie. C'est dans ce cadre-là que moi, j'interviens auprès des enfants que j'ai en charge. Voilà ce dont je voulais discuter avec vous, si on peut parler de discussion, puisque là, pour l'instant, il n'y a que moi qui parle. Je vous en prie, mettez des commentaires à la suite de ce podcast. Lâchez-vous, dites-moi tout ce que vous voulez me dire. je les relirai et je répondrai sans difficulté. Vous pouvez partager ce podcast avec vos connaissances parce que peut-être effectivement qu'ils pourront aider plusieurs personnes. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast et puis au plaisir de vous lire sur mon blog. Au revoir.